Bonjour Marin, nous allons évoquer aujourd'hui la guerre en Ukraine et nous le ferons à travers deux à la fois textes illustrés et bandes dessinées, et notamment avec Ukraine, petite histoire d'une longue guerre avec la Russie du Moyen-Âge à nos jours, qui est le premier roman graphique écrit par Mariam Nayem. C'est un livre important puisque nous sommes encore en guerre avec la Russie. Je dis nous parce qu'il y a une proximité et une communauté avec les Ukrainiens, et c'est d'autant plus fort et vrai avec ce récit où Mariam Nayem va exprimer l'histoire de l'Ukraine, mais avec une approche différente des livres déjà récemment écrits, notamment par différents historiens, et puis avec en complément ce guide de survie en temps de guerre, qui est un des fils conducteurs de ce livre. Et puis il y a également aussi le texte illustré de Michel Hazanavicius, Carnet d'Ukraine. Nous serons avec Mariam Nayem autour de 14h15 et on pourra ainsi découvrir ces processus d'écriture et qui montrent toute la dimension de cette œuvre. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous l'avez entendu, Marin est à la technique. Cette émission a été enregistrée puisque l'entretien avec Mariam Nayem s'est fait avec le concours de Anna Barrett, qui a traduit de l'anglais les propos de la scénariste. Et donc, c'est important parce que sans elle, rien n'aurait été possible. Et puis, l'enregistrement de cet entretien a été fait par Marin. Donc, deux livres vont encadrer cet entretien, celui de Michel Hazanavicius que j'ai cité tout à l'heure, Carnet d'Ukraine, qui est directement en lien avec cette fiction, mais aussi documentaire historique, donc de Mariam Nayem, qui a été dessinée par Yula Vus et Ivan Kipibida. Et le deuxième livre qui va démarrer cette émission, c'est Le pouvoir des innocents, une série que j'ai voulu mettre en lien direct avec ces deux approches, puisque cette série s'arrête après 3 cycles et 35 ans de travail. Alors rentrons un peu plus précisément dans cette série qui est signée Laurent Irne pour la partie dessin et Luc Brunschwig pour la partie scénario. Alors c'est vraiment important de pouvoir aussi parler de séries. C'est vrai que je le fais pas beaucoup parce que il y en a beaucoup d'abord, et puis elles n'ont pas toutes la même ampleur. Mais là, il y a à la fois ce tome 5 du cycle 3 des enfants de Jessica, qui était donc le nom de ce troisième cycle, va clore donc la série. C'est un livre qui est paru il y a quelques mois. Et puis, tout récemment, paraît l'intégrale du cycle 2, car l'enfer est ici. Et c'était donc l'occasion de faire le point sur cette série. Alors, le récit démarre, nous sommes en 1997, et Jessica Rupert est en pleine ascension C'est un humanisme, elle est d'opposition et donc elle brigue la mairie de New York pour apporter une autre approche de la politique. Et puis on va se retrouver en 2007, Jessica Rupert est secrétaire aux affaires sociales du nouveau gouvernement. Elle continue d'apporter de l'humanisme en politique. Il y a 200 projets de réforme pour révolutionner la façon de penser la politique. Donc cette approche a traversé la totalité de la série et jusqu'à donc cette situation. Et c'est important parce que c'est pas simplement une histoire politique. Luc Brunschwig a aussi créé des personnages très puissants comme celui de Logan ou Amy, la fille de Jessica Rupert, fille adoptive, et qui va donc montrer ainsi non seulement cette dimension politique, et c'est souvent le propre des séries, mais de le faire au niveau de chacun, au niveau humain. Alors, il y a dans cette série une dimension politique qui est absolument pas anodine et qui prend encore plus de sens avec l'arrivée de Trump pour la seconde fois à la Maison-Blanche. Et c'est évident que tous ces liens qui se font entre la série et la situation des États-Unis n'est absolument pas fortuite, mais c'est au contraire tout à fait intéressant, pertinent de voir comment l'actualité, même si c'était pas la plus récente, puisque le récit a plusieurs mois, c'était avant la seconde élection de Trump, il y a des points qui restent complètement saillants et d'autant plus d'actualité. À un moment, donc, le président qui va annoncer sa démission et évoque la mort de Jessica Rupert, et il dit ces mots. Elle voulait nous inviter à participer à ce monde, que nous contribuions à le rendre meilleur. Et malheureusement, les politiciens détestent ça. Ce qu'ils veulent, c'est que nous leur confions les clés du pouvoir afin qu'ils puissent décider à notre place de ce qui est bon pour nous. Lorsqu'on regarde l'actualité tout à fait récente, eh bien, on a vraiment l'impression d'être parfaitement dans ce cas de figure. Dans la série, les suprématismes sont les adversaires politiques violents qui contestent et refusent cet humanisme. Et on se souvient du Capitole, de cet assaut sur le Capitole que Trump n'a absolument pas démenti et contesté critiqué. Eh bien, on a avec Trump, Musk, Bannon, Vance, cette figure d'une Amérique qui est dans cette sorte de détestation d'un quelconque humanisme. Il y a, et c'est l'important, c'est très important dans une série et dans toute bande dessinée, et je ne peux que vous inviter, lorsque vous lisez une bande dessinée, de faire attention aux dialogues, de savoir comment les dialogues vont définir chacun des personnages et que ce ne soit pas simplement la représentation graphique qui nous permette de les identifier. Il est important, et à chaque fois qu'un auteur réussit à le faire, le résultat sur la lecture est étonnant, c'est que la personnalisation de chacun des protagonistes passe par une personnalisation des dialogues. C'est-à-dire que, et on le constate tous les jours, nous ne parlons pas de la même façon. Nous avons des sens immédiats, mais nous avons aussi des façons, en choisissant telle ou telle formule, tel ou tel mot, de faire passer des idées peut-être moins immédiates, mais qui ont une présence. Et c'est cette qualité du dialogue que l'on trouve dans Le pouvoir des innocents, cette façon, par exemple, de parler de politique, mais avec une sorte d'arrière-pensée permanente pour défendre telle ou telle situation, pour s'opposer de telle ou telle façon. Et à un moment, les situations sont plus marquées, comme dans ce tome 5, où les suprématistes entament une action très violente pour contester la présence de ces personnes qui soutiennent Jessica Rupert et qui sont vraiment issues de cette nouvelle façon de penser la politique. Alors ça, c'est la partie scénario, mais qui est toujours difficilement dissociable de cette partie dessin, couleur, cadrage, découpage, lettrage même, qui porte tous ces éléments du récit. Alors Laurent Hirn, qui donc a démarré, il a fait un suivi important sur l'ensemble de la série, donc c'est 35 ans de dessin. Il a commencé avec une mise en couleur qui était très audacieuse, et puis l'éditeur lui a demandé d'atténuer cette audace. Mais il reste en tout cas dans son travail de mise en couleur une volonté d'être très narratif et de permettre une sorte de lecture de la réalité qui est bien sûr fictionnelle, puisque nous sommes dans une fiction, mais qui fasse que la mise en couleur va aussi authentifier, donner de la crédibilité à chacun des plans, va permettre de mettre en avant telle ou telle case, d'avoir une lecture dynamique, d'avoir un équilibre des noirs, par exemple dans chaque double page. Ça paraît anodin, mais lorsque on lit, eh bien, on est vraiment dans une sorte de lisibilité poussée à l'extrême, déjà simplement par la mise en couleur que vous percevez tout de suite dès que vous feuilletez l'image. Et puis, il n'y a pas seulement cette qualité chez Laurent Hirn, il y a aussi la qualité du cadrage, la qualité du dessin avec cette élégance du pinceau où on a un trait qui va être tracé dans toute sa souplesse, qui va permettre un dessin des corps, des gestuels, des expressions de visage, où on va avoir une précision qui fera que chaque image va faire sens, va s'intégrer dans l'ensemble du récit et va vraiment permettre aussi bien dans le cadrage que dans le dessin, de porter les situations écrites par le scénario. Il reste un point important, c'est le découpage. Donc on a, et Laurent Hirn a cette très grande qualité, parce qu'il n'est pas très facile de changer par exemple, le nombre de bandes d'images dans une page et dans une double page. Pour la bonne et simple raison que c'est un vrai casse-tête, c'est même casse-gueule, pour le dire simplement, parce que ce rapport au cadrage, ce rapport à l'occupation de la case par les personnages, ce rapport à l'importance d'une case dans une double page. Dès que vous changez le nombre de bandes d'images, eh bien, très facilement et très fréquemment, cette importance de la case n'est plus la même parce qu'elle va être plus petite, plus fractionnée, et on va perdre de l'intensité dans la lecture. Alors Laurent Hirn, je pense qu'il a un travail sur le découpage très intense, parce que c'est comme s'il soumettait chaque découpage à un ensemble de critères pour vérifier véritablement que ça fonctionne. On peut avoir du 3 bandes, on peut avoir 5 bandes d'image, parfois 6, on peut en avoir 4 ou 5, un nombre de cases qui va varier selon les pages, on peut avoir une succession de plans identiques avec une sorte d'unité de lieu et donc de temps, c'est ce que permet les plans identiques, et à chaque fois, il y a toujours cette lisibilité, cette intégration de chacune des cases dans cet ensemble du récit. Résultat, eh bien, simplement déjà la lecture du tome 5 est significative et importante et prenante. Alors par contre, si vous ne connaissez pas la série et que vous commencez au cycle 1, eh bien, vous allez avoir de belles heures de lecture, parce que cette dimension politique du récit, cette importance des liens entre la fiction et la réalité, et comment Luc Brunschwig en joue sans les appuyer, et comment Laurent Hirn les met en scène avec toute cette efficacité et cette à la fois économie de moyens, mais exigence et rigueur dans le contenu de chaque case pour qu'il soit toujours pleinement dans le récit, sans chercher ses effets spectaculaires. Le pouvoir des innocents, le cycle 3, le tome 5, la fin de la série de ce cycle 3 nommé « Les enfants de Jessica ». C'est un livre de Luc Brunschwig et de Laurent Hirn et, qui a réalisé dessins, couleurs et lettrages. Les 88 pages de ce cinquième tome sont au prix de 19,50 € et le livre a été imprimé en France. Et nous allons découvrir le premier morceau. Alors, la bande-son, les trois musiques sont des musiques de groupes ukrainiens avec des tonalités très différentes. Et nous finirons par un pianiste qui régulièrement chante pour les soldats. Et nous en reparlerons. Et il y a une vidéo notamment où il est avec un quatuor à cordes et il chante dans une ruine. Et c'est absolument saisissant. Et on commence tout de suite.
Дочері восьмимартовської аплікації, юриспруденції і презумпції церковних ікон реставрації, 30 велосипедними спицами, білими радіоняні раціями, проводників отрішеними ліцями, тусклими железнодорожними станціями, в клеточку сарафанами ситцевими, строгими тонкими без колец пальцями, осінні перельотними птицями, кофе залитими...
L'affront fait à Zelensky par Trump d'impossible cessez-le-feu s'accompagne des gesticulations du président américain ajoutant son mépris de l'Ukraine. Le récit dessiné, Ukraine, petite histoire d'une longue guerre avec la Russie du Moyen-Âge à nos jours, retrace l'histoire complexe et profondément enracinée du conflit russo-ukrainien. Ce roman graphique, écrit par Mariam Nayem, ancre l'histoire dans le quotidien actuel avec ce guide de survie en temps de guerre présent dès les premières pages et constitue une chaîne narrative qui structure le récit. La scénariste a choisi d'échapper à une simple chronologie réductrice. Elle compose par touches ce qui distingue l'Ukraine de la Russie. Elle retrace son histoire depuis la création de cet État vers 880, sa chute en 1240, la figure charismatique du prince Volodymyr et l'interdiction par la Russie de la langue et de la culture ukrainienne avec Loukas Demes. C'est surtout l'histoire contemporaine de l'Ukraine qui est convoquée. Dès 1920, persécution, exécution de figures culturelles, soumission des paysans au pouvoir soviétique, imposant les kolkhozes, le génocide en 1932 du peuple ukrainien, appelé l'Holodomor, puis avec la dissidence culturelle et politique dès les années 60. Se compose un peuple riche de son histoire, de sa langue et de sa résistance. Réfutant le propos de Poutine, l'Ukraine est à moi. Yulia Vus et Ivan Kipibida mettent en image, en apportant à leurs images une force ironique et symbolique pour les scènes évoquant ce qui fait peuple en Ukraine et une représentation plus réaliste et plus émouvante de cette survie au cœur de la guerre. Nous sommes avec Mariam Nayem pour qu'elle nous fasse découvrir ces processus d'écriture. Mariam Nayem, comment vivez-vous ces dernières semaines depuis la visite de Zelensky aux États-Unis et cette scène ahurissante de Donald Trump et J.D. Vance avec Zelensky. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui?
Je pense que le pire de tout ceci est pour le peuple ukrainien est l'injustice. Et c'est exactement ça qui est la partie la plus importante de notre livre, c'est que pour le peuple ukrainien, ce soit cette terrible injustice à la fin de la guerre.
Mariam Nayem, dans votre livre, vous prenez l'histoire large, donc depuis le 9e siècle jusqu'à l'époque contemporaine, en étant très centré sur l'histoire contemporaine, pour présenter l'Ukraine. Pourquoi avoir choisi cette histoire si longue et ces moments forts des débuts de l'Ukraine?
J'ai voulu faire ce livre sur l'histoire ukrainienne parce que l'histoire ukrainienne est très connectée à l'histoire russe, mais pas simplement à l'histoire, mais aussi à une forme de colonialisme. Et cette forme de colonialisme n'est pas pareille que le colonialisme de l'autre côté de les mers ou de étrangers. Cela se montre plutôt sur des périodes où la Russie essaye de rendre l'histoire ukrainienne invisible ou de l'écraser pour le changer dans le temps. Donc c'était très important pour montrer ces périodes parce que c'est là que la propagande russe essaye de réécrire ces parties historiques.
Comment avez-vous travaillé, Mariam Nayem, pour écrire cette histoire? Quelle documentation avez-vous utilisée et comment avez-vous choisi les pans de l'histoire significative de l'Ukraine?
There are very important historical books and they made by famous historians, and I decided to take their books. One of them is
Donc il y a des très importantes livres d'histoire écrits par des historiens très connus et j'ai pris leurs livres pour écrire notre livre. Un d'entre eux était Pouhi de l'Institut ukrainien. J'ai utilisé surtout des faits. Pas de la manipulation, pas de propagande. J'ai uniquement travaillé avec les faits pour pas malmener les lecteurs.
Il y a, en lisant votre livre, Mariam Nayem, ce sentiment que les Ukrainiens font peuple dans leur opposition aussi à la Russie, dans leur résistance. Est-ce que cette notion de peuple est la même en Ukraine que celle présentée par certains philosophes occidentaux français notamment?
So, right now, it is important to understand that of course, we have a different feeling.
C'est important de comprendre que nous avons des sentiments différents, qu'on n'est pas toujours d'accord à l'intérieur du pays, mais je pense que ceci est un signe de démocratie et que c'est important. Ceci dit, il y a quelque chose qui nous unit tous, un sentiment de liberté et de démocratie. Et pour ce sentiment, il y a un mot ukrainien qui n'est pas vraiment traduisible dans d'autres pays. I hope I say it right. Vorola.
Voilà. C'est comme voilà, mais voilà.
Voilà.
Alors, Mariam Nayem, comment avez-vous imaginé votre récit en bande dessinée? Et pourquoi avoir choisi la bande dessinée?
Oh, this is a complicated question.
I'm sorry.
No. It's interesting. It's always interesting to have a complicated question.
C'est très intéressant, mais c'est une question assez compliquée. Les bandes dessinées ne sont pas très répandues en Ukraine. Cette culture n'est pas très présente. Nous ne lisons pas énormément de bandes dessinées. Mais dans mon passé, j'étais artiste et j'ai voulu faire des bandes dessinées sur mon père. Ça me faisait plaisir de faire ça comme ça. Et c'était uniquement une coïncidence que mon éditeur ukrainien m'a demandé de faire ça comme ça.
Comment se passe, Mariam Nayem, le travail, la collaboration entre Yulia Vous et Ivan Kipibida? Alors, j'espère ne pas trop mal prononcer leur nom. Donc, ils vivent en Ukraine. Vous vivez en Suisse, je crois. Et comment collaborez-vous? Comment se passe la création ensemble?
It was very easy to work with them because first of all they are great professionals.
D'abord, c'était très simple de travailler ensemble parce que ce sont des grands professionnels, mais également parce que nous avons un passé assez similaire. J'ai été dessinatrice longtemps. Et même au premier appel entre nous, je leur ai dit que le plus important élément était la confiance et que je leur faisais complètement confiance. Parce que je pense que pour des artistes, l'important est la liberté de créer.
Alors, Mariam Layem, je vous propose une pause musicale et on se retrouve donc dans quelques minutes pour continuer à parler dessin et bien sûr de votre livre à tous les trois. À tout de suite. Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Mariam Layem à l'occasion de la parution du livre « Ukraine, petite histoire d'une longue guerre avec la Russie du Moyen-Âge à nos jours » mis en image par Yulia Vous et Ivan Kipibida. Mariam Layem, il y a dans le livre deux styles de dessin. Un dessin pour la partie, les parties historiques, avec de l'ironie, avec un dessin plus lâché, moins réaliste. Et puis toutes les scènes de du guide de survie en temps de guerre, qui sont plus réalistes. Pourquoi ce choix ?
Nous voulions faire ressentir cette sensation de changer entre deux réalités très concrètes pour les lecteurs, parce que beaucoup d'Ukrainiens ont ce ressenti partout dans le monde de vivre dans deux réalités différentes et de bouger entre les deux. Je voulais pas uniquement faire ce livre sur l'histoire parce que l'histoire a été beaucoup expliquée et commentée, voire assez. Et je voulais montrer donc une nuit d'un Ukrainien et qu'est-ce qu'il vit. Et c'est les artistes qui ont proposé cette idée de changer entre les deux réalités.
Quels documents donnez-vous aux dessinateurs? Puisque vous avez été dessinatrice, est-ce que vous visualisez, Maryam Nayem, la page qui va être dessinée par, donc par les deux dessinateurs, Yulia et Yvan, ou est-ce que c'est juste du texte et des dialogues le contenu d'une page, mais sans dessin, et c'est eux qui proposent la mise en page?
Dans chaque page, j'avais besoin de imaginer et de faire l'image, de couper les idées, et j'ai proposé des options pour dessiner aux artistes, mais je vous ai dit tout à l'heure que la confiance était très importante, et j'ai donc dit aux artistes qu'ils pouvaient changer ceci s'ils pensaient que c'était nécessaire. Mais nous avons beaucoup ri parce que j'ai quand même fait des dessins, et mes dessins sont très enfantins. Et mais ça m'a permis de montrer ce que je voulais raconter, et ils m'ont aussi aidé. On a décidé ensemble comment on allait le montrer.
Maryam Nayem, comment avez-vous conservé, gardé une vue d'ensemble de votre histoire, de l'avancée des pages? Est-ce que vous avez, une fois l'ensemble fait, repris quelques éléments de texte, de récitatif, de bulles, pour que la relation texte-image soit la plus intense possible? Parce que c'est vraiment le cas tout au long de cette histoire.
C'était assez compliqué pour moi d'imaginer ce livre, parce que c'est mon premier livre publié. Je n'ai jamais travaillé avec une histoire aussi longue. Donc j'étais très anxieux au départ, mais j'ai fait un compromis avec les artistes, que quand ils ont fini les dessins, j'avais un mois pour polir l'histoire. Mais pour être honnête, c'était très compliqué parce que je ne savais pas comment finir cette histoire. Je ne savais pas comment étaient les dernières pages, les deux dernières pages. Et au final, c'était très comme d'autres auteurs racontent, l'histoire commence à s'écrire tout seul.
Comment a été reçu le livre en Ukraine?
It didn't publish in Ukrainian yet. Did I get the question right?
Le livre n'est pas encore publié en Ukraine encore, ça le sera dans un mois. C'est plutôt intéressant pour moi, très ironique, parce que les lecteurs français seront les premiers à en fait lire ce livre. Et pour moi, c'est important parce que mes grands-parents dans la République soviétique étaient des enseignants de français. Et donc, voilà, c'est ironique.
Maryam Nayem, qu'est-ce que vous aimeriez que change votre livre? Qu'est-ce qui peut changer?
Quand j'ai écrit cette histoire, je ne l'ai pas écrit pour convaincre les personnes qui ne sont pas acquis aux Ukrainiens, qui ne sont pas de côté des Ukrainiens. Je voulais plutôt que ce soit un outil pour les personnes qui se dresse avec les Ukrainiens qui sont plus de leur côté pour qu'ils aident, pour que cela les aide et qu'ils puissent comprendre les peuples ukrainiens. Je voulais que ce soit un corridor d'empathie envers le peuple ukrainien.
Mariam Nayem, qu'est-ce que va permettre la fin de ce livre, le fait de l'avoir achevé, ce premier roman graphique d'importance? Comment ça a libéré votre écriture?
Ironiquement, nous voulions finir ce livre beaucoup plus tôt avant, mais comme c'était un livre très émotionnel à écrire, nous avons fini voilà avec du retard. Mais du coup, en ce moment, j'ai deux livres qui seront publiés en Ukraine, mais ce ne sont pas des bandes dessinées, c'est des livres sur la colonisation. Et la culture. Et je voudrais vraiment finir mon livre sur mon père qui est décédé, mais j'ai dû arrêter parce que c'était très dur d'écrire et avec la guerre. Donc je souhaite vraiment finir ce livre.
Une dernière question, Mariam Nayem. Yulia et Ivan vivent en Ukraine. Est-ce que vous pouvez avoir des nouvelles très régulières? Comment ça se passe actuellement là-bas?
I'm currently not living for full time in Ukraine and I'm traveling.
Je ne suis pas donc en Ukraine actuellement. Je voyage beaucoup. Je change énormément de pays, mais nous avons beaucoup de coups de fil entre nous avec les artistes. Et quand je vais en Ukraine, jusqu'à là, nous n'avons jamais réussi à nous rencontrer parce que nous habitons dans des différentes villes. Mais nous avons fait un plan de se rencontrer pour la première fois quand ce livre sera présenté en Ukraine. Mais comme voilà, on passe beaucoup de temps au téléphone assez intensément, nous comprenons bien comment le travail se passe et quand il y a des blackouts, nous voyons bien que c'est compliqué de travailler. Des fois ça arrive à eux, des fois ça arrive à moi, et donc nous collaborons très bien ensemble.
Merci beaucoup, Mariam Nayem, pour vos paroles. Je vais rappeler les références du livre. Donc, Ukraine, petite histoire d'une longue guerre avec la Russie du Moyen-Âge à nos jours, que vous avez donc écrit, scénarisé, mis en image par Yula Vus et Ivan Kipibida. La traduction est de Anna Banchereau. C'est publié par Robinson. Les 96 pages de votre livre sont au prix de 20 euros. Et il y a effectivement pour la traduction Roxane Gardel. Et ce livre a été imprimé en France. Merci beaucoup, Mariam Nayem, et très bonne continuation. Merci.
Настане день, закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Обійми мене, обійми мене, обійми. моя душа. Складає зброю вниз. Невже таки вона так хоче теплих сліз?
Je voudrais terminer cette émission par un livre indispensable, comme ceux qui sont placés en fin d'émission, qui est le livre « Carnet d'Ukraine » de Michel Hazanavicius, qui est réalisateur et qui a été invité à rencontrer des combattants ukrainiens par un de ses amis qu'il avait rencontré à Kiev lors d'un précédent voyage qui s'appelle Kolia. C'est un complément important avec le livre de Mariam Nayem, Yulia Vus et Ivan Kipibida, parce que Michel Hazanavicius a fait des rencontres, a recueilli des témoignages. Il a fait des photos parce qu'il ne voulait pas dessiner au moment de ces rencontres, parce que pour lui c'était trop de temps. Il a pris des notes, et ces notes, il souhaite les retranscrire telles qu'elles, ne pas les retravailler. Alors déjà dans les notes, il y a ces impressions et ces pensées du moment, et à certains moments, il va évoquer d'ailleurs cet exercice qui pour lui est nouveau, cet exercice de l'entretien où en peu de temps, eh bien, il faut arriver déjà à ce que la personne qu'il rencontre se sente à l'aise, puisse évoquer qui il est, lui, dans cette guerre russo-ukrainienne, et pouvoir parler, être peut-être dans l'intimité. Et à certains moments, eh bien, on sent qu'il y a une barrière qui résiste, et Michel Hazanavicius va l'évoquer dans ses écrits. Il y a de temps en temps des éléments de dialogue qui sont retranscrits tels quels, mais le principal, c'est vraiment le récit où il raconte à la fois l'entretien lui-même, ce qui est évoqué par la personne, en personnalisant bien sûr et en respectant et évoquant l'intimité qui a pu émerger dans les propos de la personne avec qui il s'entretient, mais aussi le contexte, les lieux, ils ne sont pas faits tous au même endroit, et il y en a qui ont eu lieu à Kiev, mais rapidement, eh bien Michel Hazanavicius va aller sur le front, il va rencontrer des combattants, va se retrouver aussi avec dans des lieux où les malades sont soignés, et il va, les blessés sont soignés, et il va rencontrer ces personnes et recueillir leurs témoignages. Alors très vite se compose un ensemble qui est vraiment un livre choral fait de différents choristes, et on est à chaque fois sur cette rencontre avec un des choristes de l'ensemble des personnes ukrainiennes, qu'ils soient combattants ou non, mais c'est principalement des combattants. Il y a à chaque fois, au fur et à mesure que l'on avance dans ces carnets d'Ukraine, il y a différents moments, différents sentiments qui sont exprimés avec une très grande force. Et notamment, par exemple, Vira qui parle d'injustice et qui, à un moment, s'est exilée et finalement, elle ne voyait dans les regards des Polonais qu'elle rencontrait, qu'elle croisait, puisqu'elle s'était exilée en Pologne, eh bien, un regard de pitié qui fait qu'elle avait l'impression d'être réduite à cela. Il y a, lorsqu'on arrive vers le front, bien la réalité de la guerre. Et à chaque fois, elle est exprimée de façon différente, qui se complète, qui parfois se superpose, parce qu'il y a aussi vraiment des points communs. Il y a une confiance et une fierté qui est exprimée par ces différents combattants. L'Ukraine a résisté alors que Poutine pensait que cette guerre allait être extrêmement brève. Et d'ailleurs, un personnage rencontré, à un homme rencontré, eh bien, qui a servi dans l'armée pendant longtemps, qui a capturé un Russe, c'était au tout début, et le Russe, étonné, n'imaginait pas que l'Ukraine puisse avoir une armée. Il y a, pour la plupart des personnes qui se sont engagées pour défendre l'Ukraine, une façon de déjouer l'histoire. Il y a cette volonté de dire, mais oui, on peut résister et on ira jusqu'au bout. C'est donc vraiment une tragédie, et pour Olga, c'est une tragédie jour après jour. C'est une des grandes importances aussi de ce livre. Ce n'est pas des portraits de héros. C'est et Michel Hazanavicius le cite tout de suite, prévient, c'est pas tous les héros de la guerre en Ukraine. Il y a un homme qui sera vraiment présenté comme le héros national, et c'est un homme qui sert dans l'armée depuis très longtemps, qui a fait des actes héroïques, mais la qualité des entretiens, c'est de garder cette dimension humaine, c'est vraiment d'apporter cette proximité, cette intimité même qui apparaît très régulièrement dans cette folie de la guerre. Et c'est là aussi où, lorsque on lit des bombes sans cesse, des bombes. Il y a vraiment cette dimension tragique qui est omniprésente à cause de cette folie de la guerre. Il y a un autre point qui me paraît important de souligner, puisque on a beaucoup évoqué les 3 ans de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, et tous dans ce livre disent « Non, la guerre a commencé en 2014 avec l'occupation du Donbass ». Et c'est important. On avait fait, les historiens font un peu la même erreur avec, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, où on l'a fait démarrer en 1939, alors qu'en 1936, quand les républicains espagnols se battent contre Franco, on est dans le début de cette Seconde Guerre mondiale. Et là, avec cette occupation du sud de l'Ukraine par la Russie, il y a le début de la guerre dès 2014. Et cette période des 3 dernières années, en février 2022, eux considèrent que c'est la grande invasion. C'est important aussi tous ces détails parce que on est, grâce à chacun des témoignages, dans une perception qui va être beaucoup plus intense de tout ce que on a pu se représenter avec les différents reportages, avec les informations, avec les analyses d'un tel ou d'un tel. Mais là, à partir finalement de ceux qui vivent la guerre avec des propos très différents, des personnalités différentes, des actions sur le terrain différentes. Par exemple, il y a les forces culturelles qui sont là pour apporter, et c'est grâce à Kolia qu'elles sont à l'œuvre, qui sont là pour apporter autre chose aux soldats, pour qu'ils puissent tenir, pour que ce sentiment d'être ukrainien qu'évoque si bien Mariam Nayem trouve aussi toute sa force, et ces forces culturelles sont là pour intensifier ce sentiment. Il y a de très nombreux reportages, le livre fait 240 pages, il y a des entretiens qui sont un peu plus importants que d'autres, certains aussi sont chapitres sont sur des lieux plutôt que des personnes. Et donc il y a un panorama de l'Ukraine d'aujourd'hui qui se compose avec une intensité qui est essentiel. Michel Hazanavicius a dessiné les portraits des personnes avec qui il s'est entretenu. C'est un dessin au crayon, réaliste, qui s'appuie sur des photos et qui, en tout cas, par sa forme dessinée, est plus forte que la photo, et le livre retranscrit très bien cette relation intime entre le dessin et le texte et les propos de ces différents entretiens. C'est un même niveau d'intimité. Je ne citerai pas différents témoignages, ils sont tous importants. Il y a une façon de cheminer dans ce récit qui est émouvante. Carnet d'Ukraine de Michel Hazanavicius. Alors je l'ai pas dit, mais c'est vrai que Michel Hazanavicius, c'est le réalisateur. Il a fait les deux OSS 117. C'est lui le réalisateur de Vie Artiste. Il a fait très récemment, en 2024, un film d'animation. Et donc là, il est dans un exercice un peu nouveau, qui est celui de l'entretien accompagné de dessins. Donc, Carnet d'Ukraine de Michel Hazanavicius est publié par Alary Édition. Les 242 pages de ce livre sont au prix de 20 euros. Le livre a été imprimé en Italie. Merci Marin pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.